Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est donc de retour en onde, chers auditeurs, pour une chronique faite par moi-même sur le décès d'Alex Navalny. Comme intitulé, je vais parler du récent décès du principal opposant et du premier et peut-être enfin du seul finalement opposant au pouvoir à Vladimir Poutine, donc Alexei Navalny. Alexei Navalny, il faut savoir que ça fait plusieurs années que son combat militant et politique est de s'opposer directement à Vladimir Poutine, malgré le pouvoir russe, parce que comme on le sait, la Russie a un pouvoir très répressif, très oppresseur, et un pays qui est complètement dépourvu. Qui est un pays où la liberté et la pluralité politique et démocratique est inexistante. C'est Vladimir Poutine lui-même qui a les points à pouvoir et qui, comme on le sait, à chaque élection, réussit à augmenter la durée de ses mandats, à écarter ses opposants. Et là, c'est le cas d'Alexei Navalny. Alexei Navalny avait déjà été empoisonné précédemment par Vladimir Poutine, mais il a toujours continué son combat. Il avait fait plusieurs grèves de la faim, il avait continué à lutter pour la défense de la démocratie et de la pluralité politique en Russie. Et depuis quelques mois, il était enfermé dans une prison dans le Grand Nord,
en Arctique.
Et au sein même de cette prison, il continuait à militer à travers des entrevues interposées qu'on avait en fait de magistrats, d'avocats, car ça, c'est quelque chose que la Russie a toujours eu, c'est que malgré ses actions dictatoriales, répressives, la Russie essaye et fait fi d'avoir un certain cadre législatif, et c'est ce que fait Poutine malgré le fait qu'il abat ses opposants, qu'il les emprisonne à vie, qu'il les met dans des camps en Arctique. Navalny avait une procédure législative, donc il avait un avocat, il était défendu. Ce qui est complètement hypocrite, car on savait le sort qui allait lui être attribué quand on connaît la politique de Poutine. Mais donc il continuait à parler de ses idées, à se défendre à travers les vidéos qu'on avait de son avocat, vidéos et entrevues sur lesquelles il avait toujours ce sourire qui arpentait le visage de Navalny, un sourire moqueur envers le gouvernement russe. Il aura tenu tête jusqu'à la fin de sa vie. Finalement, voilà, son combat aura duré jusqu'à la fin, et je pense que lui, il y croyait réellement. Et donc, comme je disais, il est mort ce 16 février 2024. On peut pas vraiment dire, on pourrait même appeler ça un assassinat finalement, car il était, on parlait même que dire qu'il a lui fait qu'il était la métaphore est horrible, mais c'est le cas, comme s'il avait, on pouvait dire qu'il a été enterré vivant presque, car en sous-nutrition, très malade. Il avait déjà été empoisonné une fois, donc dans des conditions de santé terribles, et en plus envoyé en Arctique dans une prison. Donc toutes les conditions pour qu'il décède finalement, mais comme ça aurait été une trop grosse charge diplomatique de le tuer directement, la Russie a décidé de le mettre dans ce genre de conditions-là. C'est tout le contexte politique qui est intéressant aussi, car dans quelques mois, si ce n'est même 2 mois, si je ne me trompe pas, moins de 2 mois, il y a... Enfin, dans quelques mois, il y a la campagne, entre guillemets, de l'élection russe qui va avoir... qui va atteindre
élection,
qui va atteindre son apogée.
C'est à la mi-mars les présidentielles.
C'est ça, voilà.
Renzo, puis le seul candidat qui aurait pu s'opposer à Vladimir Poutine, Boris Boris Nadezhdin avait recueilli les 100 000 signatures qui avaient été nécessaires pour rendre sa candidature officielle, mais ça a été rejeté par la commission électorale en Russie qui avait dénoncé des irrégularités.
Donc voilà, merci pour ce détail, Marc-Antoine. Donc on voit que tous les candidats ont maintenant été écartés. Donc c'est ça. Je disais 2 mois, mais c'est dans 1 mois finalement que l'échéance de l'élection russe arrive. Donc ce qui est très intéressant, c'est que je faisais campagne entre guillemets. En réalité, c'est une campagne, mais complètement hypocrite, car on sait tous qu'il va encore trouver des solutions pour augmenter ses temps de mandat. Il a réussi à écarter tous ses candidats. Donc la campagne n'est pas vraiment utile. Les gens qui s'opposent à son pouvoir sont lourdement réprimés.
En fait, je te interromps un petit peu, Enzo, là, c'est même pas les gens qui sont contre lui, c'est des gens qui ont rendu...
Qui votent contre lui.
Oui, mais qui ont rendu hommage, en fait, même à Navalny.
C'est ça que j'allais dire, justement. J'allais dire que la plupart des gens qui luttent, en fait, contre Poutine et qui défendent ses opposants sont directement emprisonnés, et même que là... en fait, le 17 février, en fait, le lendemain du décès de Navalny, c'est 150 personnes qui ont été condamnées par la police russe. 150 personnes qui rendaient hommage à Alexei. Et d'ailleurs, le gouvernement a indiqué que le corps d'Alexei ne sera pas rendu avant au moins 14 jours. Donc on voit que la Russie fait tout pour ne pas que la mort de cet opposant politique implique une révolte populaire. Car c'est pour le coup, naturellement, ce qui pourrait et ce qui aurait dû se passer, c'est que la mort du seul opposant démocrate à Poutine, progressiste, Alexei Navalny, qui fait partie d'un parti social démocrate, notamment, qui s'appelle... désolé pour mon accent, mais Yabloko, qui aussi défend tout un tas de causes progressistes, notamment la cause des personnes LGBT, on en parlait tout à l'heure. C'est une personne qui est largement soutenue par une partie de la jeunesse. Donc c'est intéressant de voir que le pouvoir russe veut écraser la révolte sociale qu'aurait pu provoquer le décès d'Alexei Navalny. Au-delà de ça, il y a aussi sa conjointe, sa femme, encore une fois, excusez-moi pour mon nom d'accent russe, mon problème de voilà, si on a des auditeurs d'Europe de l'Est, je m'excuse, mais Lulia Navalnaya, donc c'est la conjointe d'Alexei, qui elle aussi est impliquée dans les mêmes luttes qu'Alexei contre la corruption. Il faut aussi savoir qu'au-delà de son combat politique, le fait que ces deux personnes-là, ce couple, étaient largement réprimés par le gouvernement russe, c'est leur grand combat contre la corruption. Le gouvernement russe, c'est littéralement une mafia dans leur gestion de l'État, dans leur gestion des finances publiques, dans leur gestion du pouvoir, dans l'organisation. C'est une mafia. Hein. Et le fait que le couple Alexei et Ryolia se battaient contre la corruption et ont prouvé tout un tas
de magouilles.
De magouilles, ouais, c'est presque des lanceurs d'alerte, hein, en certains points.
Oui.
Ils étaient largement détestés, réprimés par le pouvoir russe. Et Ryolia elle-même, qui depuis l'Allemagne, dans laquelle elle est en ce moment, car encore une fois, on le dit. On ne sait pas encore le sort qu'elle aurait eu si elle avait tenu ces propos-là dans des médias russes, mais connaissant le gouvernement russe, ça aurait été très compliqué pour sa survie. Mais donc la veuve de Alexei a annoncé qu'elle se battrait et qu'elle prolongerait le combat de son mari. Je la cite, « Je poursuivrai l'œuvre d'Alexei, je continuerai pour notre pays avec vous et je vous appelle tous à vous tenir près de moi. Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer », a-t-elle martelé. « Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine, ses amis, les voyous en épaulettes, les courtisans et les tueurs qui veulent paralyser notre pays. C'est ce qu'elle a donc lancé au soir de l'annonce du décès de son mari. Elle veut donc prolonger ce combat pour la démocratie, pour plus de progressisme au sein du pouvoir russe. C'est un combat très compliqué parce qu'encore une fois, je le répète, on est dans un pays qui a une énorme répression, on est dans un pays qui est très réactionnaire. Pour le coup, je parlais de révolution tout à l'heure, mais là, on est dans un pays qui est largement au summum du libéralisme, du capitalisme, je pense, la Russie, de la répression des travailleurs et de ceux qui veulent se révolter contre le pouvoir. On est dans un pays qui est tenu par des oligarques, littéralement. Donc, c'est quand même très compliqué pour les travailleurs, pour les minorités, au sein de la Russie. Ce qu'il faudrait, c'est en fait une des seules solutions, ce serait littéralement que le peuple, les travailleurs eux-mêmes reprennent le pouvoir sur la dictature qui existe en ce moment même en Russie, car on le voit, c'est impossible en réalité de conquérir le pouvoir légalement en Russie, car quand on essaye de le gagner à travers les élections, on se fait réprimer ou tuer, comme là pour Alexeï, on est emprisonné dans des camps, il y a des tentatives d'empoisonnement. Donc la seule solution pour la Russie, c'est que les travailleurs prennent le pouvoir, mais là encore, c'est extrêmement compliqué, car on a une force répressive et policière qui est énorme, on a une propagande d'État qui est énorme. Et j'en ai pas encore parlé tout à l'heure, mais on va en reparler dans quelques minutes, parce que je vais vous laisser sur une petite page de musique, mais on va aussi parler du contexte historique de la Russie que je ne peux pas nier, qui est le contexte avec l'Ukraine. La mort de l'assassinat d'Alexeï s'inscrit également dans un contexte où la Russie est extrêmement oppressive pour les travailleurs russes, mais pour les travailleurs ukrainiens, pour le peuple ukrainien. Et ce contexte de guerre qui s'est intensifié de plus en plus, dont Marc-Antoine disait que c'était les 2 ans de la guerre en Ukraine, créer un contexte encore plus complexe pour l'État russe à un mois de l'élection. Et c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus de changements historiques dans ce conflit, notamment l'élection américaine pourrait avoir une large impact sur le financement de l'armée ukrainienne. Donc c'est tout ce contexte, le contexte de la prochaine élection américaine, la guerre en Ukraine qui s'intensifie, c'est de plus en plus compliqué pour l'armée ukrainienne et pour le peuple ukrainien en termes de sécurité et en termes militaires. C'est tout ce contexte-là qui était à la fois défavorable pour la politique russe, mais favorable pour plus de répression, qui a aussi finalement causé et impliqué l'assassinat de Alexeï Navalny. Donc merci de m'avoir écouté, chers auditeurs. Je vous laisse sur une page de musique et on va continuer avec une discussion. Une discussion avec Jérémy et Marc-Antoine sur ce sujet-là. Merci, à tout de suite.